j'aimerais prier ce matin pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour l'avancement de ton royaume. Merci parce qu'on amène ton royaume. Seigneur, je te prie de me guider, je te prie de me conduire dans tout ce qui va être apporté maintenant. Et je te prie que ta parole vienne résonner dans nos cœurs. Ta parole qui est vie, ta parole qui a créé la vie en nous. Et je te prie maintenant au nom de Jésus que ce qui était mort dans le cœur des personnes revienne à la vie. Seigneur, j'appelle à la vie ce qui était mort et enfoui au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux peut-être juste éteindre ce rail-là, s'il te plaît ? Histoire, parce que le PowerPoint va être assez important. Non, quelque part, j'aurais dû le faire. Yes. Si je devais donner un titre à mon message, c'est « Dieu n'a pas dit son dernier mot ». On va lire ensemble. Qui connaît l'histoire de Lazare ? Qui ne connaît pas l'histoire de Lazare ? Laissez-moi vous la partager. Prochaine diapo, dans le village de Béthanie, vivaient deux sœurs. Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui avait répandu, et l'auteur prend le soin de recaler où était Marie. C'était cette femme qui avait répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur et les avait essuyés avec ses cheveux. Et Lazare, son frère, tomba gravement malade. Ce n'est pas ce qui lui arrivait. Peut-être qu'il avait fait une indigestion alimentaire, que sais-je. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un auprès de Jésus pour lui dire « Seigneur, ton ami, ton copain est malade. À toi, dépêche-toi. » Et quand Jésus a pris la nouvelle, tout de suite Jésus a une perspective divine de ce que Dieu le Père veut faire. Et voici la déclaration de Jésus. « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu, à faire éclater la gloire de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe et à sa sœur et à Lazare. Il était très attaché, il les aimait. Et il resta 2 jours de plus à l'endroit où il était, après avoir pris la maladie de Lazare. Et alors seulement, après 2 jours, il dit à ses disciples, ben, « Venez, retournons en Judée, c'est-à-dire allons voir là où est Lazare. » Au verset 20, quand Marthe, du coup Jésus, ils étaient à 2 endroits géographiques différents, Jésus se rend là-bas et on se projette. Marthe entendit que Jésus s'approchait du village, elle alla à sa rencontre. Ce que vous devez savoir, c'est qu'entre-temps, Lazare est mort. Jésus arrive trop tard. Et du coup, elle sait que Jésus s'approche au village, elle court à sa rencontre. Et Marie était restée assise à la maison. Et Marthe, alors qu'elle court, elle dit tout essoufflée, « Seigneur, si tu avais ici, mon frère ne serait pas mort. » Et il y a encore un petit espoir. Elle dit, « Mais maintenant, je sais encore. Tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Et Jésus lui dit la perspective finale de ce qu'il va faire. Il dit, « Ton frère reviendra à la vie. Je te l'annonce. » Il va y avoir un miracle, ton frère va revenir à la vie. Waouh ! Là-dessus, elle appela sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, « Le maître est là, il te demande de venir. » Alors, dès que Marie l'eut entendu, elle se leva précipitamment et courut au devant de Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté assis à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Et quand ceux qui étaient avec Marie dans la maison pour la consoler, la virent se lever brusquement pour sortir, ils la suivirent, croyant qu'elle allait au tombeau pour pleurer. Marie parvint à l'endroit où Jésus était. Et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est intéressant que les deux sœurs disent la même chose. Si tu avais été ça ne serait pas passé. Et quand Jésus la vit pleurer, ainsi que tous ceux qui étaient venus avec elle, il fut profondément bouleversé dans son fort intérieur et ne put dominer son émotion. « Où l'avez-vous enterré ? » demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Et Jésus se mit à sangloter, à pleurer. Alors les Juifs lui disent, « Voyez comment il l'aimait. » Quelques-uns firent remarquer, « Ouais, mais il a bien rendu la vue à un aveugle. N'aurait-il pu empêcher la mort de Lazare ?» Une fois de plus, Jésus fut bouleversé intérieurement. Il arriva au tombeau, c'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Pouvez-vous imaginer Jésus qui se retrouve dans une situation où c'est annonciateur de ce qu'il allait vivre lui-même dans un tombeau avec une pierre fermée. Il arrive devant cette pierre de l'impossible, cette pierre où on a dit c'est mort, c'est fini, Jésus dit enlevez la pierre. Et Marthe, la sœur de Jésus, pardon, Marthe, la sœur du... La sœur du... Regardez ce qui est marqué. la sœur du mort. Il n'est même pas question de Lazare, c'est des petits trucs comme ça. Lazare a perdu son identité le jour où il a trépassé. Il ne s'appelle plus Lazare. C'est le mort, il est mort, c'est fini. La sœur du mort objecta. Et elle dit, Seigneur, il doit sentir mauvais, ça fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre et Jésus se tourna le regard vers le ciel. Et il dit, Père, je te remercie de m'avoir exaucé ma prière. Pour moi, je sais bien que tu m'exauces toujours. Mais je parle ici à cause de tous ces gens qui m'entourent pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il appela d'une pleine voix, Lazare, sors de là et viens. Et voici que le mort apparaît, les pieds et les mains liés, le visage couvert d'un suaire, peut-être qu'il a sauté à cloche-pied, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et il sortit de la tombe, du lieu de l'impossible, et dit « Déliez ces bandes et laissez-le marcher. Yeah. » Je me suis arrêté. Hier, on était dans le train, je travaillais cette prédication avec Romain, et on s'arrêtait à chaque passage, chaque mot. C'est comme si on vivait la situation, on essayait d'interviewer les personnes, on était dans l'histoire, avec cette histoire avec Jésus, et j'étais à côté d'eux. Et j'aimerais tirer quelques enseignements, si vous voulez bien, de ce texte-là, et nous les partager ensemble. Marthe et Marie, et Lazare, sont des amis de Jésus. Jésus les aime particulièrement. Vous avez des amis dont vous êtes très proches ? 1, 2, 3, vous voyez, l'ami dont est le plus proche, voilà. Voilà, cette personne-là apprend que tu es gravement malade. Il est sur le point de mourir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Intoxication alimentaire, une rage de dents qui a mal tourné, j'en sais rien. Il tombe gravement malade. Et au début, vous savez, comme toute personne qui est malade, au début, on commence à prier. On intercède, ça va bien se passer, et puis le Seigneur va agir, alléluia. Et puis l'état de Lazare empire. Puis là, ça commence à devenir rade. Il va falloir commencer à se préparer. Et la pression monte. Et puis il y a quelqu'un qui dit, l'un des deux, peut-être qu'il faudrait appeler Jésus. Mais Jésus, il n'est pas là. Jésus, il est loin. Et à cette époque-là, ce n'était pas comme maintenant, tu envoies un SMS à l'autre bout de la terre. À cette époque-là, il fallait payer quelqu'un qui était un coursier, en bon argent, qui partait à cheval ou à pied, et qui courait à porter de nouvelles. Et là, ça monte, et à un moment donné, écoute, là, il faut vraiment que Jésus intervienne, appelle Jésus. Et puis tout d'un coup, la panique. Moi, j'étais dans un moment où il était même question, peut-être que Elisa allait y passer. Je me rappelle, il y a un moment donné où tu paniques de fou. Et là, peut-être dans la panique, c'est « Appelle Jésus, cours !» Ils prennent quelqu'un, « Tiens, on te paye, on te donne l'argent, cours voir Jésus !» Il part, il court. Et là, Jésus va venir. « Lazare, tiens bon, si tu m'entends !» Accroche-toi, Jésus va venir, Lazare. Jésus va venir. D'accord ? Et on sait qu'ils sont à 2 endroits différents. Vous êtes avec moi au chevet du malade ? Ok. Premier point, comment est-ce que tu agis dans les zones d'attente pour ton miracle ? En fait, la question se pose, nous avons une crise que nous traversons. Il y a une situation d'impossible. Et comme tout bon chrétien qui se respecte, ce que nous faisons, c'est que nous crions à Dieu. Jésus, au secours ! Et entre le moment où tu appelles au secours et le moment où Dieu intervient, il y a ce qu'on appelle un délai. Et cette zone, ce champ-là, va dire beaucoup de choses sur toi. Vous êtes là ? Du coup, l'attente dit quelque chose sur la foi en celui qui peut tout. Il y a des gens qui disent, « Ouais, mais moi, je connais mon Jésus. Quand on l'appelle, il vient. » Ben, il vient, mais peut-être pas toujours immédiatement. « Ouais, mais... » Et qu'est-ce qui se passe quand il tarde ? Parce qu'au début, tu y crois qu'il va venir tout de suite. Et puis, à un moment donné, il ne vient pas et tu dis, « Mais pourquoi il ne vient pas ? » Et puis après, le pourquoi il vient pas, tu fais « Ouais, mais il vient pas alors que je l'ai appelé !» Vous comprenez ? C'est, ça se transforme en « Je l'ai appelé, il vient pas, qu'est-ce qu'il fait ? Comment ça se fait qu'il vient pas ?» Il y a une phase, en fait, le problème, la crise. Et puis il y a l'attente. On attend tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et maintenant, on sait que quand Jésus a le message, il est en train de prendre l'apéro avec ses disciples. Le coursier arrive. Jésus, ton meilleur ami, ton ami, il est malade. Oui, oui, c'est bon. Hey, tiens, ben, remets-moi un petit peu de jambon, là. Enfin, il n'est pas paniqué. Il ne s'est pas mis à courir tout de suite. Et en fait, il y a toute notre humanité qui dit « Jésus, ton ami est en train de mourir, tout le monde est en stress, pas possible. Jésus, il y a une paix, il y a un calme. On vient t'avertir que ton ami est en train de mourir et toi, tu ne bouges pas. Quel genre de Dieu es-tu ?» Hey, les amis, donnons-nous un moment. Est-ce qu'on peut laisser parler notre humanité à ce moment-là ? Jésus a ses disciples. On vient dire « Jésus est malade, Jésus ne bouge pas. » Du coup, la question que je pose ici, qu'est-ce qu'attendait Jésus ? Ok, je vais reposer la question. Jésus, tu as ton meilleur ami qui est en train de mourir à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben moi, ni une ni deux. Messieurs, dames, je pose là, on court, on va à l'hôpital tout de suite. Jésus apprend ça, il ne fait rien. Qu'est-ce que Jésus attend ? Merci. Jésus attend qu'il meure. Excusez-moi les amis, moi je connais Jésus qui fait des miracles. Moi je connais Jésus qui chasse des démons. Mais Jésus qui attend qu'il meure, ça je ne connaissais pas. Jésus attend qu'il meure. Et là il y a une espèce de gêne. Jésus attend qu'il meure parce qu'il a décidé de faire un miracle plus grand pour faire éclater sa gloire. Mais nous, dans notre humanité, on veut que Jésus, tu le guérisses. Mais Jésus, il ne voulait pas le guérir, il voulait le ressusciter. Est-ce que vous me suivez ? Du coup, il y a nos attentes, nos ambitions, et il y a ce que Dieu souhaite faire dans cette situation-là. Nous, on veut que tu le guérisses. Ouais, mais Jésus, il a un autre plan. Et en fait, on hiérarchie quelque part les miracles que Jésus peut faire. Nous catégorisons les zones dans lesquelles il peut agir. Et puis là, Jésus, c'était, vous savez, le guérisseur qu'on connaît. C'est Jésus, il libère les malades. Jésus rend la vue aux aveugles, il guérit les sourds. Et Jésus, c'était devenu le guérisseur. Et puis, il y a cette zone confortable où on sait que Jésus peut guérir. Mais pas qu'il peut ressusciter les gens, ça, c'est du jamais vu. C'est pas possible. Et Jésus a décidé de percer la membrane d'incrédulité sur la mort. Vous êtes avec moi ? Du coup, Jésus a voulu nous montrer qu'il était le Dieu de l'impossible. Pas celui qui guérit les malades, mais celui qui non seulement guérit les malades, mais qui ressuscite les morts. C'est le Dieu de l'impossible. Et par conséquent, Jésus attend qu'il meure. Et il y a des choses dans nos vies où Dieu ne peut pas intervenir tant que ce n'est pas mort. Je parle à quelqu'un, je préparais ce message. Et à ce moment-là de ce message, je le dis pour toi, c'est que Dieu désire intervenir dans ta vie, mais il y a des choses en toi qui doivent mourir. Et Dieu ne peut pas agir tant que ce n'est pas mort. Il y a ce qu'on appelle des cycles dans la Bible, des schémas répétitifs. Alors, j'ai fait un petit peu de... Je me suis replongé dans mes notes d'étudiants d'école biblique. C'est ce qu'on appelle un principe de kénos. Laissez-moi vous éclairer. Prochaine diapo. À chaque fois, tu vois ce qu'on appelle des patterns, des cycles, des mouvements dans la Bible, dans la vie des individus. C'est Abraham. Abraham, Dieu lui fait une promesse, mais la promesse est venue des années plus tard. Et alors que Sarah, ses entrailles étaient stériles, étaient mortes, Dieu ramène la vie. Il y a une promesse, il y a cette phase de mort, et Dieu ressuscite le rêve. David, Dieu lui donne une promesse, tu vas être roi d'Israël, et pendant 30 ans, 33 ans, David a été pourchassé sous la main de Saül à dormir dans des fossés. Tout en lui, tout est mort. Et à la fin, Dieu l'amène à la royauté. Vous prenez Ruth qui était de Moabite, sans avenir. Elle était veuve. Elle va suivre sa belle-mère par solidarité dans un pays qu'elle ne connaît, qui n'est pas le sien, qu'elle ne connaît pas. Et elle va épouser un prince charmant alors que tout en elle, son avenir, tout est mort. Et à chaque fois, vous voyez l'histoire de Joseph dans une prison, l'histoire de Moïse au désert. À chaque fois, il y a l'avenir de Dieu, il y a la mort et il y a le relèvement. Et en fait, ce principe de génos, on le retrouve, c'est kénosis dans Philippiens 2, verset 7. Ça signifie se vider, s'abaisser. Et Jésus l'a fait. Il y a cette phase d'abaissement, de dépouillement, de la mort à nous-mêmes. Il y a quelque chose en nous qui meurt. Il y a quelque chose qu'on lâche. Et ensuite, il y a cette phase d'exaltation, de relèvement, de gloire. Et c'est ces mouvements-là que Dieu fait dans nos vies. Et toujours, il dit, l'humilité précède la gloire. Celui qui sera abaissé sera élevé. Il y a toujours cette dimension où on va mourir à quelque chose auquel nous tenons énormément. Ça parle à quelqu'un ici ? Qui veut mourir ? Ouais, vous comprenez ? C'est là où en général, il y a moins de candidats. Mais il y a quelques fous qui ont levé la main. Vous comprenez ? Parce que quand tu vas mourir à quelque chose, ça fait mal. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas envie de mourir. Tout en moi, j'ai... Non, je veux vivre, j'ai des choses à dire. Est-ce que vous me suivez ? Pourquoi Dieu agit-il ainsi ? Les amis, en fait, ce que j'ai envie ici, c'est qu'on grandisse en maturité. Et si vous ne comprenez pas la pédagogie de Dieu et pourquoi Dieu fait comme ça, le jour où Dieu va vous demander de mourir à certaines choses, vous allez vous rebeller contre lui. Donc la question que je pose, et il est temps pour Connect Grenoble et chacun des membres, peut-être de cette église ici, de grandir dans votre foi et dans votre compréhension de pourquoi Dieu agit ainsi. Donc la question à 100 000 euros, je vous la pose ce matin. Pourquoi Dieu agit ainsi ? Pour être dépendant de lui, j'achète. Quelqu'un a une meilleure trouvaille. Pour sa gloire, yeah ! Quoi d'autre ? Oui, mon ami ? Avoir la foi, oui. Pour qu'on s'approche de lui, oui. Eh bien, il y a, dans tout ce que vous avez dit, il y a des portions qui sont vraies. En fait, Dieu ressuscite une situation. Il veut que tu te rappelles dans ton esprit intérieurement, alors que tu n'y croyais plus, alors que tout était mort. Il veut que tu saches, que tu l'imprimes dans ton être entier, que ce n'est pas par tes forces. Ce n'est pas par toi-même. T'as rien fait, absolument rien du tout dans cette situation pour que lui ait toute la gloire de ce qu'il fait dans la vie. Et en fait, il y a un moment donné où tu diras, là, j'y croyais plus. Mais il y a quelque chose où Dieu a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est comme des piliers que tu vas mettre dans ta vie dans des situations complètement impossibles. Tu sais que c'est lui. Et tu n'en attribues pas le mérite. Tu lui donnes toute la gloire et c'est dans cette espèce de soumission que Dieu nous veut. Il veut que tu saches que c'est lui l'auteur de la résurrection. Et il y a ce passage qui dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. » Ok, j'avance. Point numéro 2. Quand Dieu semble absent, Jésus arrive et Marie lui dit « Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Il y a énormément de personnes qui pensent de la même façon parce qu'il y a cette phase d'incompréhension, les amis, si on se parle franchement. Jésus, je t'ai appelé, il y a eu un drame, il y a eu un mort, il y a une maladie, il y a quelque chose. Je t'ai appelé, j'ai crié à toi et t'étais où ? Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de décrire ? Vous avez prié à Dieu et ça ne vient pas tout de suite, ou du moins de la forme que vous l'attendiez. Et pire encore, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que ça arrive à quelqu'un ou il n'y a que moi qui vis ce genre de choses, peut-être. Et Marie vient, elle dit, si tu avais été là, ça ne serait pas arrivé. Et il y a cette dimension de dire, t'étais où ? T'étais où quand le monde y souffre ? Est-ce que t'es parti boire des bières avec tes copains ? T'étais où quand il y a eu le drame ? T'étais où quand il y a eu cette horreur ? T'étais où ? Le monde ici-bas, on a tellement besoin de toi. Il y a tout l'âme de la rue va dire, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de misère. N'est-ce pas ? Ce serait bien que tu viennes mettre de l'ordre ici comme tu le mets là-haut. C'est le cri sourd de notre humanité languissante qui tente désespérément de chercher Dieu et qui est déçu quand il tarde à répondre. Mais Dieu répond pas toujours à nos prières dans notre temps à nous. Et quand il y a Marie qui vient et qui dit à Jésus, mais t'étais où ? Pouvons-nous imaginer qu'il y avait des disciples qui étaient à côté ? Eux, ils savaient que Jésus avait attendu 2 jours. Vous êtes là ? Et vous pouvez être sûr qu'il y a un disciple méga gêné qui a dû se dire, hey, les gars, moi, je veux pas dire, mais j'avais dit à Jésus, faut se dépêcher. Hein. Parce que dès qu'on... Excusez-moi, madame, mais dès qu'on a appris la situation, moi, je voulais partir tout de suite. Hein. Ah, Jésus nous a... Bah, excuse-moi, je veux gêner personne, mais... Hein ? Vous comprenez ? Jésus n'a pas agi comme ça. Jésus avait une perspective de ce qu'il voulait faire dans les œuvres du Père. Et là, ce qui est touchant ici, c'est que quand ça s'est passé, il y a ce moment-là où il y a ces pleurs, cette incompréhension, et la Bible nous dit que Jésus pleura. Il fut bouleversé. Les amis, arrêtons-nous un moment ici. Jésus va guérir Lazare 30 minutes plus tard ou une heure plus tard. Pourquoi est-ce que Jésus se met à pleurer alors qu'il a la capacité de le ressusciter et qu'il va le ressusciter ? Pourquoi ? En fait, Jésus est touché par la souffrance, par la tristesse que tu traverses. Il n'y a pas cette idée de Jésus, il s'en fout, Jésus, il est loin, Jésus est indifférent, nous sommes fantômes. Et alors que je préparais ce message, il y avait quelque chose qui saisissait dans mon esprit, c'est que Jésus est avec toi dans ce que tu traverses. Jésus pleure quand tu pleures. Il est triste quand tu es triste. Il porte avec toi cette langueur qui te terrasse, il est avec toi, il pleure, il est touché, il est concerné. Il est à tes côtés. Il porte cette maladie à tes côtés. Il est celui qui peut guérir ta maladie. Mais il y a juste des fois des phases où on a besoin de savoir que Jésus est là à côté et qui m'a aidé à traverser ce que je traverse. Et Jésus vient face à l'impossibilité, face à cette pierre. Prochaine diapo, il dit « Enlevez la pierre », commanda Jésus. Et Marthe, la sœur du mort, elle dit, elle objecta, elle dit, Seigneur, il doit sentir mauvais, ça fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? En fait, les amis, laissez-moi vous parler du deuil. Quand vous avez un deuil, il y a ce qu'on appelle les étapes du deuil. Il y a 4 étapes, même il y en a beaucoup plus, mais j'en ai retenu seulement 4. La première, c'est quand il y a un deuil, quand il y a une situation de mort. La première, quand on apprend la nouvelle, il y a une phase de choc. Je suis en choc, je ne l'imaginais pas, il y a un choc, il y a une incompréhension qui est là. Ensuite, immédiatement, il y a ce qu'on appelle la colère. On tente de trouver des responsables, les médecins n'ont pas posé le bon diagnostic, l'hôpital, l'ambulance n'est pas arrivée assez vite, on trouve un coupable, on a besoin, c'est naturel, de pousser de la colère contre quelqu'un. Et ensuite, il y a cette phase d'acceptation de la situation. Il ou elle ne reviendra pas. C'est fini, c'est mort. Et quand on voit Jésus avec Marie, il a pleuré avec elle, il est bouleversé. Et quand Jésus va faire le miracle, elle est en phase d'acceptation de la situation. Au début, elle y croyait un petit peu. Elle voit Jésus, elle dit, écoute, si tu pries, si tu fais quelque chose, elle y croit encore un peu. Et après, elle est en phase où elle n'y croit plus. Jésus dit, ok, maintenant, je vais faire le miracle. Enlever la pierre. Et là, elle-même, elle arrête Jésus. Elle dit, non, mais ce n'est pas la peine. Non, mais maintenant, c'est trop tard. Non, mais avant, j'ai pris... Parfois, c'est l'humanité est parfois complexe, n'est-ce pas ? Il y a eu toute cette phase où tu as prié, tu as cherché, tu as demandé à Dieu, Dieu s'apprête à faire un miracle. Et maintenant, non, mais c'est bon, c'est bon. Non, mais maintenant, ce n'est plus la peine. Non, mais fallait le faire avant. Est-ce que vous me suivez ? On est quand même bizarre. C'est trop tard maintenant, parce qu'il y a cette phase d'acceptation de la situation. on n'est plus combatif, je me suis accommodé. Ah ben c'est pas de chance. Maintenant j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça dit sur nous, cette situation-là ? En fait, ce que ça dit sur nous, c'est que je veux que Dieu agisse quand moi je le dis. House. Vous êtes là ? Parce que je vais à l'église, parce que je donne de mon temps et mon argent, parce que je lui donne mon adoration, et il y a une espèce de deal non-verbal qu'on a avec Dieu, c'est que le jour où je suis en panique, parce qu'il est Dieu, il doit agir. À mon temps, à mes conditions. Vous êtes là ? Du coup, finalement, tu veux un Dieu qui a tes ordres, un Dieu qui t'obéisse, mais en fait, c'est toi qui te prends pour Dieu. Vous êtes là ? Tu veux avoir le contrôle de la situation de ta vie et tu deviens ce qu'on appelle ton propre Dieu. Du coup, j'aimerais à tous ceux qui se prennent ou ceux et celles qui se prennent pour Dieu, j'aimerais vous dire, arrêtez de vous prendre pour Dieu, arrêtez de prendre le rôle de Dieu, car la place est déjà prise et vous êtes mauvais dans le rôle. Il est meilleur que nous dans son rôle à lui pour conduire nos vies. Et il y a quelque chose qu'on doit apprendre à abandonner, c'est le contrôle. Oh Seigneur. Dites avec moi le contrôle. Là, il y a des gens qui disent, hors de ma... jamais je lâcherai le contrôle. Mais c'est ces phases, de toute façon, c'est mort. Il faut que tu lâches le contrôle. Tournez-vous vers votre voisin, ça va être thérapeutique. Lâche le contrôle. Dites ça à quelqu'un à côté de vous. Ça fait du bien de se le dire. Les amis, il y a tout en nous qui ne veut pas lâcher le contrôle. Mais non ! Mais tu vois pas, c'est en train de se casser la figure. Je vais perdre l'opportunité. C'est mort, il n'y a plus rien à faire. C'est plus la peine d'y appeler. Combien de fois, les amis, revenez avec moi, combien de fois on dit c'est mort ? Ça vous est déjà arrivé de dire ça ? Non mais arrête, c'est mort. Non mais c'est même plus la peine d'y appeler, il n'y en a plus. Non mais arrête, lâche. Pourquoi tarde-t-il à répondre ? Pourquoi est-ce que Dieu tarde à répondre ? Parce que tu n'as pas lâché. J'ai un message de la part de Dieu pour quelqu'un ici. Lâche le contrôle. Parce que quand tu perds le contrôle, Dieu le reprend. Faut que tu lâches. T'as lâché ou t'as pas lâché ? Deuxièmement, ce lâcher-prise manifeste dans le fait qu'on lui donne... Attention ! Dans le fait qu'on lui donne... Aïe ! Le temps. Seigneur, je lâche le contrôle sur cette situation. Ça, c'est le premier mouvement. C'est déjà bien, tu as franchi la première étape. La deuxième étape, c'est de dire, je te donne le temps, ton calendrier, le timeline, la saison, l'heure, l'instant fixé, l'échéance, le délai. Est-ce que vous suivez ? Je te donne le temps. C'est toi qui décides au moment où ça va arriver. Ce n'est plus mon problème, c'est entre les mains de Jésus. C'est Jésus qui s'en occupe. Est-ce que vous êtes avec moi ? Et quand je lui remets ça, il y a une mort qui s'opère en nous. Il y a un lâcher-prise qui nous libère. On remet notre vie entre les mains de celui qui peut tout. Et souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on ne lâche pas le contrôle ? Bah souvent, c'est à cause de nos insécurités profondes qu'on a du mal à lâcher prise et on se prend pour Dieu. Et j'agis comme ça envers les autres, je reproduis ça dans ma relation avec Dieu sans même le savoir. Du coup, Dieu nous demande de lâcher le contrôle. Dieu nous demande de lui remettre... faites-le avec moi, s'il vous plaît. Le temps. Et la troisième chose que Dieu nous demande de lui remettre, c'est les circonstances. Les circonstances, c'est quoi ? Eh bien oui, il y a une troisième level. Parce que quand on lui a donné le contrôle, quand on lui a donné le temps, ben, il y a une partie de nous qui dit « Oui, mais comment tu vas faire ? Tu vas t'y prendre comment ?» Mais c'est ton problème ou c'est plus ton problème ? Comment tu vas le ressusciter ? Comment est-ce que c'est possible ? Ben c'est impossible. Mais comment tu vas? Ben, c'est pas possible. Mais c'est plus ton... Est-ce que c'est... T'as lâché ou t'as pas lâché? Ça parle à quelqu'un, ça? Pour que Dieu se saisisse du dossier, il faut que ce soit mort, que je lui donne le temps, le contrôle et les situations. J'avance et je termine avec ça. Très rapidement, Dieu redonne la vie à ce qui était mort. On ôta donc la pierre. Jésus tourna alors son regard et dit « Père !» Il y a cette sensation-là extraordinaire. Jésus lève les yeux au ciel, il regarde et dit « Père !» Tournant, il dit « Je te remercie de ce que tu as exaucé ma prière. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Ainsi, je parle à cause de tous ces gens qui m'entourent et pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et cela dit, il crie à pleine voix « Lazare, sors et viens !» Et il vit le mort apparaître, les pieds, les mains entourés de bandes, le visage couvert. Et ceux qui étaient là, il dit à ceux qui étaient là, « Délie-le, laissez-le aller. » Waouh ! Le mort ne s'appelle plus Lazare, le mort revient à la vie. Il y a un choc. Il ordonne à ce qui était mort de revenir à la vie. Et mon message, c'est Dieu n'a pas dit son dernier mot sur cette situation. Impossible n'est pas un mot que Dieu connaît. Impossible n'est pas dans le caractère, n'est pas un mot qu'il a téléchargé. Vous êtes avec moi ? Et quand vous regardez cette titre, et quand vous étudiez le texte, il y a quatre sphères, quatre audiences, quatre cercles de personnes. Il y a Marthe et Marie, je ne parle pas de Lazare, il est mort. Marthe et Marie, que Jésus voulait éduquer et enseigner. Il y a, dans l'histoire, il y a qui ? Il y a les disciples. Il y a les autres, le voisinage, ceux qui disaient « Ouais, mais bon, il a guéri un aveugle, il pourrait le guérir. » Il y a toujours les gens qui ont une bonne idée. « T'aurais dû, t'aurais pu. » Est-ce que vous me suivez ? Il y a l'entourage, la plèbe, les incroyants, les dubitatifs, tous ceux qui ont quelque chose à dire. Et il y a une quatrième catégorie de personnes, c'est vous. Comment est-ce que ce texte me parle à moi ? Qu'est-ce que Jésus est en train de me dire là ? Et Jésus disait, ces choses sont, et c'est l'apôtre Paul qui dit, ils sont arrivés afin que ça nous parle à nous. La dernière fois que je me suis dit que c'est mort, je vais demander à Evody si tu veux bien venir te mettre au piano et on va terminer avec ceci. La dernière fois que j'ai dit c'est mort, je me suis posé la question, c'est quand la dernière fois que tu as dit c'est mort, il n'y a plus rien à faire ? Dans votre esprit, est-ce qu'il y a une fois où vous vous êtes dit là, il y a un mois, il y a un an, c'est mort, c'est fini, j'y crois plus? La dernière fois que c'est arrivé pour moi, je me rappelle, j'étais dans le hall de la préfecture de Grenoble. C'est moi vous raconter cette histoire. Mon épouse, je l'ai raconté, je crois, à quelques personnes de notre braise, mais mon épouse devait se rendre en Angleterre et je voulais lui faire la surprise. On avait un séminaire en Angleterre à Brighton avec une conférence d'église qu'on devait aller là-bas et ma femme adore l'Angleterre, elle rêvait qu'une chose c'était d'aller en Angleterre et je me suis dit tiens, elle me dit mon rêve ce serait d'aller juste avant et dans mon esprit je me suis dit Jo, tu pourrais t'organiser avec maman, peut-être garder les enfants etc. et je lui ai fait la surprise de lui commander un billet d'avion juste pour un changement. De 3 jours avant, je paye deux fois le billet d'avion. Tu sais, je mets un billet d'avion, ça me coûtait, je sais plus, genre 150 euros. Je paye 300 euros, 450 euros. Finalement, le billet d'avion, je dis « Oh, c'est cher !» Et dans ma tête, je dis « Allez, vas-y, elle en vaut le coup. » Toute l'année, elle se donne après les enfants. Et « Vas-y, Jo, c'est pour elle !» Et je dis « Oui, allez, sacrifice, on n'a pas l'argent, on est à découvert, mais peu importe, Seigneur, tu pourvois. Oui, on le fait !» Et je commande le billet d'avion et hop, je flash la carte bleue et ça y est, c'est fait. Ha ! Merci Seigneur, tu vois. Ha ! Et dans ma tête, je me dis, je vais venir tel un empereur conquérant. Le billet, je descendrai les marches de la maison et en disant, chérie. Et dans ma tête, je l'imaginais pleurer. Tu l'as fait ? Oui, non ! C'est, tu vois, c'est wouhou ! C'est, hey ! C'est qui le meilleur ? C'est qui le mari ? Je me suis loupé à la Saint-Valentin la dernière fois, mais regarde comme je me rattrape. Ça vaut 10 prochaines années. Enfin, vous voulez. Et au moment où je rentre le numéro du passeport, un effroi, le passeport est expiré. Oh, mais tu sais, la rage. Et dans mon esprit, mais je dis, mais c'est pas possible. Alors, ça, c'est un mauvais coup. Ça, et je viens de billet non échangeable, non remboursable. 450 euros, ça me fait plaisir. Je sais que pour certains, c'est pas grand-chose, mais pour nous, je dis, c'est pas possible. Et dans mon esprit, j'essaye de récupérer un petit peu des parts de marché, au moins d'imprimer, de dire, chérie, voilà ce que j'avais voulu faire. Elle allait pleurer, mais c'est l'intention qui compte. Tu vois, j'ai essayé quelques petites miettes, ça vaut quand même le coup de prendre. Et je me rappelle avoir pris, je ne suis pas très spirituel, mais des fois comme ça, ça m'arrive. C'est comme si le Seigneur il m'a dit, non, je vais faire éclater ma gloire. Je dis, mais comment ? Non, je vais faire éclater ma gloire. Il y a quelque chose en moi qui m'a levé, pris. Je dis, Seigneur, prie. Et puis, je commence à taper un peu sur Internet, etc. Faire un passeport. Mais faire un passeport, ça prend 2 mois et demi en France. Et elle part la semaine prochaine. Enfin, le billet d'avion. Et je réalise qu'il y a une procédure spéciale à Grenoble, à la préfecture de Grenoble, qui s'appelle un passeport d'urgence. Je m'y intéresse, je ne connaissais pas. Un passeport d'urgence, c'est que vous ne devez pas vous être trompé dans les dates. Bah, je fais boum, c'est mort. Vous ne devez pas ceci, bah boum, c'est mort. En fait, je coche dans aucune des cases. Mais je fais la demande. Et je reçois un email, tu ne peux même pas les joindre au téléphone. Je reçois un email, la personne, elle me dit, bah, venez à 15h. Je vous le fais simple, à 15h, on n'était pas là, on a eu du retard. Je me rappelle qu'on a imprimé les papiers, il fallait imprimer des tonnes de papiers, etc. On est sur l'autoroute, on arrive sur l'autoroute et il y a un bouchon. Il y a un bouchon. Et là, 15h, et là, il est 14h45, et tam, le bouchon n'avance pas. Et là, je prends la bande d'arrêt d'urgence. Non. Et on bouchonne, un bouchon, mais un monde. Et je voyais la promesse s'éloigner. Non. Bon, je m'étais encore accroché à un espoir et c'est fini. On arrive, on avait des véridiques. Hein. Ma femme, elle peut vous témoigner, chérie, je ne mens pas. Rendez-vous à 15h, on arrive à 15h45. Et je me rappelle être dans le hall de la préfecture de Grenoble. Il y a les volets, les stores en aluminium baissés, il n'y a personne. Il y a du marbre blanc par terre, c'est vide. Eh oh. Je suis là. Et là, dans mon esprit, c'est mort. Tu vois ? C'est mort de chez mort, de archi mort, c'est enterré. Enlève les pavés de marbre, c'est sous terre. Enfin, tu vois. Et là, il y a un truc en moi, tu sais, t'as tout essayé. Il y a une partie de moi, ton Dieu. Et je suis là et je dis, Seigneur, et je vais pour partir. Et il y a un monsieur que je vois, les cheveux grisonnants, avec des lunettes en bleu de travail. Il fait, bonjour, c'est vous le policier ? Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que quand j'étais jeune, j'étais gendarme. Mais j'avais 20 ans. Et je lui dis oui, mais quand je lui dis oui, et après j'ai dit oui, mais j'ai abaissé mon ton de voix et j'ai fait, mais je ne suis plus policier maintenant. Etc. Et lui, il a entendu le oui, et il s'avance vers moi. Ah, bon, c'est vous, ben, venez, suivez-moi. Et il m'amène. Et je suis le monsieur, je ne sais pas qui il est. On monte un étage, on passe un couloir, on passe une ascenseur. Il dit, asseyez-vous là. Je m'assois là. Je vois un militaire qui est ici et je ne sais pas. Ma femme est à l'extérieur, elle doit me rejoindre. Mais tu peux pas, ça bloque, tu as des portiques. Je suis avec les papiers, je tremble. Et je dis, en fait, il me prend pour un inconnu. Je suis au mauvais endroit. Je suis dans un malentendu. Et il y a toutes les portes étaient fermées, on ne pouvait plus rentrer. Et t'as une dame, elle vient. Finalement, Elisa, je ne sais plus, elle me rejoint dans le bureau. Véridique, hein. Elle s'assoit à côté de moi et on ne parlait pas, elle et moi. Je fais, on parlera après. On tend le passeport. Et la dame, elle ne nous parlait pas, tu sais. Hein, c'est vous ? Comme ça. Et elle se lève, elle part, elle revient. Puis on ne parlait plus. Non, mais après. Et elle revient, elle débarque avec un passeport vert. Passeport vert, c'est du Maroc. Elle me vient, elle me dit, tenez monsieur. Bon voyage. On est sortis de là. Chérie, vrai ou pas vrai ? Elle pleurait. On pleurait. On dit, waouh, Seigneur, on n'a pas tout perdu. Waouh, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. même avec la préfecture de Grenoble, même quand c'est mort, même quand c'est pas possible, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mets un coup de coude à ton voisin et dis, c'est valable ça pour toi.